Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Quelle grâce de pouvoir avoir des moments comme celui-ci où nous pouvons penser et croire que Dieu a quelque chose à nous dire. Vous croyez que Dieu a quelque chose à vous dire? Moi, je le crois vraiment. Que ce sont des moments où tous nous avons prié, nous avons venons de prier, nous invoquons la grâce de Dieu, nous nous tenons devant Dieu. Dieu sait quelle est la parole qu'il va adresser à notre cœur. Je me réfère à deux lectures avec vous. La première dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, qui nous montre que nous ne nous connaissons pas, mais que Dieu, lui, il sait où nous en sommes. Peut-être que vous pensez, vous pouvez dire, tiens, moi, je sais où j'en suis avec Dieu. Pierre pensait qu'il allait très bien. Et il pouvait se permettre de dire, mais moi, non, et moi, si, et moi, là. Et il avait besoin de traverser certaines choses. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Vous voyez comme quoi il... Hein? Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. Amen. Vous voyez, comme quoi il n'y a que Dieu qui sait exactement où on en est. Nous, on peut croire que ça va. Et pourtant, il y a des choses d'abord qu'il faudrait régler. La deuxième lecture, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un texte très connu. C'est dans le prophète Osée, où Dieu dit quelque chose de terrible. Et pourtant, quelque chose de très utile. Osée chapitre 2, verset 16. Moi, c'est un verset qui m'a toujours interpellé, parce que j'ai compris ce jour-là que le Seigneur sait l'endroit où il peut nous parler. Vous le savez, que bien sûr que le lieu de sa maison est le lieu idéal. Mais il n'y a pas que dans sa maison que Dieu peut nous parler. Dans certaines épreuves, Dieu peut nous parler. Est-ce que vous l'avez vérifié? Vous l'avez vérifié. Osée chapitre 2, verset 16, c'est un verset qui est très fort. Et que les chrétiens devraient accepter, parce que Dieu peut, comme on va le lire, nous conduire au désert. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Nous, on aurait préféré un autre lieu, c'est clair. Et je parlerai à son cœur. Voyez, Dieu sait où nous attirer, où nous conduire, dans quelles circonstances, dans quelles situations, afin qu'il puisse parler à notre cœur. Car une des raisons pour lesquelles nous sommes rassemblés ce soir, mis à part le fait que nous sommes venus prier pour combattre le bon combat de la foi, c'est également pour que Dieu puisse parler à notre cœur. Sinon, nous allons passer à côté de la volonté de Dieu et nous allons beaucoup souffrir. Alors, parler, quelqu'un pourrait dire, oui, mais que si Dieu veut me parler, mais qui me parle? Vous voyez, c'est très, très, très expéditif. Je pense que quand on veut que Dieu nous parle, il faut être à l'écoute. Vous croyez que Dieu parle comme ça? C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit, que d'écouter ce que Dieu a à nous dire. On le voit avec l'exemple de Pierre, qui lui pouvait se dire, mais moi, tu sais, pourtant Dieu venait de la prévenir, hein. Satan t'a réclamé. Mais que nous soyons sérieux. Je pense qu'on peut concilier la joie. Est-ce qu'on peut concilier la joie du salut? Est-ce que vous êtes heureux d'être sauvé? Il y a une joie indescriptible. C'est quelque chose que, même entre nous, on a du mal parfois à en parler, de cette joie qu'est la nôtre d'être sauvé. Et en même temps, on peut concilier ce sérieux qui fait que l'on va vraiment écouter ce que Dieu a à nous dire. Là, je parlerai à son cœur. Donc, le Seigneur, on vient de le lire dans ces deux textes, on voit que Dieu veut nous parler et que de notre côté, il veut soutenir notre foi. Dieu veut soutenir notre foi. Dieu veut affermir notre foi. Où en sommes-nous de la foi? Est-ce que vous croyez toujours que la foi vient de la parole de Dieu? Quand je vois des chrétiens qui ne lisent plus la parole de Dieu, je me dis, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de perdre la foi? Si vous priez comme les apôtres, augmente ma foi. Et que Dieu, qu'est-ce que Dieu pourrait vous répondre? Eh bien, lis ta Bible. C'est pas vrai? Puisque le moyen de voir la foi augmenter, puisque la foi vient de la parole de Dieu. C'est clair, ça peut pas être plus compliqué. Et c'est un don. La Bible parle d'un don de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, vous verrez que la foi, c'est aussi un don. Donc, un don où on le méprise, il y a des choses qu'on peut mépriser sans s'en rendre compte. Où il y a des choses qu'on peut véritablement apprécier et faire valoir. C'est ce qui se passe au niveau des dons. Il y a des gens qui méprisent les dons et qui ne font plus rien dans l'Église et qui sont en danger. Et puis il y a des gens qui disent, voilà, j'ai reçu et je vais faire valoir le don que Dieu m'a donné. Dieu, il sait. Il sait comment soigner, il sait comment guérir, il sait ce dont on a besoin, etc. Donc, vous regardez peut-être, comme Jeanson disait dans les Cantiques, au parcours qu'on a fait. Est-ce que vous êtes heureux du parcours que vous avez eu? Tiens donc, quel que soit votre âge, vous êtes jeune, vous êtes plus âgé, vous pouvez dire, bien, il y a 30 ans que je marche avec Dieu. Claudine, il y a combien de temps? 40 ans, non? Que tu marches avec Dieu? Voilà, bon, 40 ans, ça commence, 40 ans. Vous, combien c'est? 50 ans? 55 ans, on peut dire, bon, il y a un long, long parcours. Bon, c'est sûr que quand on marche depuis longtemps avec Dieu, on a vérifié beaucoup de choses, sa fidélité, sa grâce, sa bonté, etc. Mais je pense qu'entre ce que l'on fait, entre ce que l'on doit faire, il y a peut-être un décalage, comme Pierre. Il y avait un gros décalage entre ce qu'il disait et entre ce que Dieu voulait faire. Alors, et le seul moyen de trouver vraiment cette grâce, c'est d'avoir une foi vivante. Et vous le savez, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on a une foi vivante. Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je vous assure, avant de venir, j'ai eu une conversation avec une chrétienne qui est de l'Assemblée, qui est très sérieuse, qui a eu des entretiens avec des chrétiens d'une autre église. Je ne dis pas ça pour critiquer, mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi et qui s'autorisent à dire et à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de laisser le Seigneur nous conduire. Alors c'est dommage que Dieu en soit arrivé à devoir dire à son peuple, je vais te conduire au désert, mais là tu seras coincé, je pourrai parler à ton cœur. N'attendons pas que Dieu soit obligé de nous mettre dans des situations difficiles pour parler à notre cœur. Parce que ça arrive des fois. Oh, aujourd'hui j'ai compris la leçon. Combien de gens, est-ce que je viens de traverser? Et c'est vrai que Dieu est parfois obligé de nous amener dans une situation difficile. Autant être à l'écoute de suite. Que c'est beau de se dire, moi je veux que Dieu me parle. Tout va bien dans ma vie? Eh bien au contraire, je vais prendre du temps. Il y a des gens, vous comprenez, j'ai pas le temps, il y a le sport, vous comprenez, il y a ceci, deux fois par semaine on va au restaurant, moi j'ai pas le temps de venir à l'église. Moi je trouve que quand on est béni, c'est bien de passer du temps dans la présence du Seigneur. Quand vous lisez certains psaumes, tout à l'heure je lisais le psaume 42, vous le lirez parce qu'on n'a pas le temps de le lire. Mais ce soir en rentrant, peut-être avant de vous endormir, vous lirez le psaume 42, même le psaume 43, et vous verrez combien notre cœur peut être abattu, comme il peut y avoir un combat intérieur. C'est David, des fois il y a des combats terribles, c'est pas vrai? Il y a des combats terribles. Et vous lirez le psaume 42 et vous verrez quelqu'un qui a vraiment la foi. Bon, bien sûr que si ce psaume est dans la Bible, c'est que c'est un psaume inspiré. Mais ça vous montre que même quand on est bien avec Dieu, on peut avoir des combats terribles. Et qu'on doit se ressaisir. C'est le cas, j'espère, que ce soit quelqu'un qui a besoin de peut-être de faire une prière toute simple. Vous rappelez cet homme qui a dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Vous voyez, on a deux mots, « Je crois ». Et en même temps, il y a de l'incrédulité. On pourrait dire, mais c'est paradoxal, c'est contradictoire. Eh bien, ça indique les combats que l'on peut parfois vivre. Mais ça vaut la peine de dire au Seigneur, écoute, oui, je crois en toi. Je crois dans tout ce qui est écrit dans ta parole, mais je traverse un moment difficile. Viens à mon secours. Est-ce que Dieu va le faire? Oui. Et vous lisez le psaume 42, méditez le psaume 42 après cette prédication, et vous comprendrez le combat qu'on doit absolument gagner. Il y en a des combats dans notre cœur. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on passe, mais il y a vraiment des combats. Alors Dieu parle, il veut nous parler, il voulait parler à Pierre, il voulait parler au peuple d'Israël, et il a été obligé de l'amener dans le désert. Et Dieu parle de ceux qui sont faibles dans la foi. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Dieu a souvent fait ce reproche, non pas pour nous, pas pour abaisser la personne, mais pour comprendre que notre foi pouvait s'affaiblir. Notre foi, elle a besoin d'être fortifiée. C'est pour ça qu'on a besoin de prier ensemble. Vous rappelez Moïse, sur la montagne, Dieu lui avait dit, écoute, tu lèveras tes mains, et tant que tu lèveras les mains, eh bien, Josué dans la vallée aura la victoire. Et il a levé les mains, tout Moïse que c'était, et au bout d'un moment, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ses mains se sont affaiblies. Vous connaissez l'affaire, qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est fait soutenir. Il a demandé de l'aide. Moi, je trouve cet exemple extraordinaire parce que ça nous prouve que les combats sont liés à la foi que la foi, elle est extraordinaire parce que c'est Dieu qui combat pour nous, mais qu'on a besoin de dire, priez pour moi, soutenez-moi. Est-ce que vous le faites de dire à quelqu'un, mais priez pour moi, soutenez-moi, n'ayez pas honte. Cet exemple de Moïse nous prouve que qui que nous soyons et quel que soit le combat que nous avons mené, nous devons demander aux autres de nous soutenir. Est-ce que vous le faites? Faites-le, faites-le. Hier, quelqu'un est venu me voir, j'ai eu, depuis les dernières prédications, je ne sais pas combien de personnes m'ont dit, écoutez, priez pour moi, soutenez-moi, j'ai besoin d'un travail, voilà, priez pour moi. Un frère me disait, mardi, priez pour moi. Mais moi, je crois que c'est ça l'Église. Bien sûr, on ne va pas prier pour des petits bobos, peut-être, il y a des choses, mais il y a des combats où il faut quand même qu'on se soutienne les uns les autres. Et beaucoup de chrétiens sont dans la défaite parce qu'ils ont voulu vivre leur vie spirituelle tout seul. Et il n'y a jamais écrit dans la Bible, chacun pour soi. Il y a des gens, ils sont très forts, ils vont dire, moi je prie pas, je prie seul chez moi. Mais moi, est-ce qu'il y a écrit dans la Bible, prier chacun pour soi? Mais voyez, il y a des chrétiens qui s'autorisent au nom d'une pseudo-liberté, j'en sais rien. Ce n'est pas biblique. Je pense que c'est bien de prier chez soi. Ferme ta porte, entre dans ta maison, etc. Ferme ta porte, entre dans ta chambre. Je pense qu'on a besoin des moments seuls. Mais on a des besoins, on a des moments où on doit prier ensemble, se soutenir ensemble. C'est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné pour la simple unique raison qu'ils se sont retrouvés tout seuls. Et c'est vrai qu'on peut dire, mais moi je me confie en Dieu, je me confie en Dieu seul. Mais c'est bien. Mais je peux vous dire qu'il faut demander de l'aide aux frères et aux sœurs. Dieu a dit, je ne sais pas combien de fois, supportez-vous, ça ne veut pas dire je le supporte, ça veut dire le porter avec. Supportez-vous les uns les autres, soyez serviteurs les uns les autres, aimez-vous les uns. Vous avez vu le nombre de fois, on pourrait faire une prédication, toute une prédication sur ce sujet, toutes les fois où il est écrit les uns les autres. N'ayez jamais honte de demander du secours, jamais honte. N'ayez jamais honte de demander de l'aide à quelqu'un. Je pense que ça c'est une des ruses du diable qui veut nous isoler et nous faire perdre la raison. C'est vrai ce que je vous dis. Donc réclamez de l'aide. Alors, comment les autres peuvent nous aider d'ailleurs, si on ne demande pas de l'aide? Combien de gens m'ont dit, monsieur Gou, vous devriez aider telle personne, c'est une honte, vous êtes le pasteur, ce gars il a besoin, il a à manger, et puis, mais je ne le sais pas. Il y a des gens qui ne demandent pas. Je crois que, franchement, je crois qu'il y a un peu de bon sens, et que quand quelqu'un a le besoin, il faut en parler. Vous êtes d'accord? Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de manger, dites-le. Dites-le discrètement, mais ne venez pas, n'allez pas faire des reproches à quelqu'un qui ne sait pas que telle ou telle personne est dans le besoin. Pour que notre foi soit soutenue, elle a besoin bien sûr d'être soutenue d'abord par Dieu. C'est Dieu qui soutient notre foi. Dieu se préoccupe de notre foi. Est-ce que vous savez que Dieu se préoccupe de votre foi? Vous avez vu le témoignage de Jésus? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus aurait pu dire, écoute, Satan va te cribler, mais je vais prier pour que ça ne t'arrive pas. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher l'épreuve? Mais bien sûr, il peut tout. Il pouvait empêcher l'épreuve, c'est évident. Mais Jésus ne dit pas, je vais empêcher l'épreuve. Il dit, tu traverseras l'épreuve et dans l'épreuve, je te soutiendrai. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc Dieu se préoccupe de notre foi. Il peut poser la question, trouverai-je la foi? Ce soir, Dieu peut poser la question à chacun de nous. Est-ce qu'il y a la foi dans ma vie? Cette foi vivante. Jésus est le consommateur de la foi. Alors c'est une expression qu'on a du mal parfois à comprendre, mais c'est celui qui peut vraiment évaluer notre foi. Le consommateur de la foi, je ne sais pas, quand vous le lisez, c'est peut-être pas l'expression qui vous transcende le plus, je suis d'accord. Mais si je vous dis que c'est celui qui évalue véritablement votre foi, vous allez dire, ah, il sait exactement où j'en suis. Est-ce que ça vous rassure? Oui, ça doit vous rassurer. Nous sommes sauvés quand même, par la foi ou par la grâce? Alors, voilà, ça c'est une bonne question. On est sauvés par quoi? Par la foi ou par la grâce? Les deux. S'il y a pas la, il faut qu'il y ait la conjonction des deux. Même si la grâce, c'est 99%, s'il n'y a pas la petite conjonction de foi, il n'y a pas le salut. Donc, voyez, on est sauvé par grâce, mais il est quand même écrit par le moyen de la foi. Donc, c'est la preuve que même pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut utiliser, un tant soit peu, la foi que Dieu nous a donnée. Comment pouvons-nous être agréables à Dieu? C'est écrit dans Hébreux. Comment on est agréable à Dieu? Par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je pense qu'on veut être agréable à Dieu. Vous avez envie d'être agréable à Dieu. Enfin, tous les chrétiens. On se désire d'être agréable à Dieu. Ça ne peut se passer que par la foi. La prière que Dieu exauce, parce qu'il y a des prières qui ne sont pas des prières. Les païens prient, les hypocrites prient. Jésus n'a pas dit ne priez pas comme les païens, ne priez pas comme les hypocrites. Quand vous priez, priez de tout votre cœur, etc. Vous savez, il y a la prière de la foi. Alors, un chrétien peut se contenter de routine, de tradition. Je ne sais pas vous, ce que vous voulez. Si vous êtes là ce soir, moi je pense que vous voulez une parole de Dieu. On ne veut pas de la religiosité, des credos humains, de la tradition. Il y a des gens qui s'en contentent. Hein. Ils s'en contentent, ils ont l'impression que Dieu est avec eux. Non. Est-ce que je veille sur ma foi? Est-ce que je veille suffisamment sur l'état de ma foi? Quand vous lisez le livre des Actes, par exemple, on pourrait lire deux textes dans les Actes, deux, parce qu'il y en a tellement. Mais juste pour vous donner une idée, que dans le livre des Actes, qui est notre repère, qui est notre modèle, qu'est-ce qui se passait? Actes 14, 22. La foi, ce soir, Dieu veut certainement vous parler pour vous montrer si votre foi ne vacille pas. Actes 14, 22. Qu'est-ce qui se passe? Acte 14, verset 22. Qu'est-ce qui se passe? Fortifiant, c'est Paul, hein? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que des tribulations, il y en a. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais voyez, les exhortant à persévérer dans la foi. Acte 16, 5. Acte 16, verset 5, voyez, les églises se fortifiaient dans la foi. Et quand vous réfléchissez à tout ça, on n'en prend que deux, bien sûr, les églises se fortifiaient dans la foi. Ailleurs, il est dit, soyez fermes dans la foi. Si on prenait tous les textes, on verrait une chose, que Dieu veut que l'on ait une foi ferme. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Vous voyez, quelqu'un cet après-midi me disait, oui, mais oh, quand même, il n'y a qu'un texte où il est dit, écoutez ça, hein. Que de ne pas se mettre avec un infidèle, donc quand même Dieu ne doit pas être fou. Quand il n'y a qu'un texte dans la Bible où il dit ne vous mettez pas avec un infidèle. Je dis mais ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 textes. Si Dieu nous demande de ne pas nous mettre avec un infidèle, c'est qu'il ne faut pas se mettre avec un infidèle. Après si quelqu'un veut s'y mettre, mais qu'il s'y mette. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Et quand on se fortifie dans la foi et qu'on commence à parler comme ça, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir un drôle de fossé et qu'on risque de traverser de sérieux déserts qu'on aurait pu éviter. Oui, les églises se fortifiaient dans la foi. C'est la véritable foi qui fera que dans une église, il y aura de véritables serviteurs, il y aura de véritables servantes. Le problème, ce n'est pas de dire combien nous sommes dans l'église. Le problème, c'est de dire est-ce que les chrétiens de l'église ont une véritable foi. Notre service, notre premier service, c'est d'avoir une foi vivante, une foi active. Nous parlions tout à l'heure, et j'ai parlé avec plusieurs personnes dans l'église ces jours-ci. Toutes les personnes qui sont venues me trouver m'ont dit, voilà, je veux faire la volonté de Dieu, je veux faire ce à quoi Dieu m'appelle. Est-ce que c'est bon ça dans l'église? Mais oui, c'est bon. Quand quelqu'un dit, je veux faire ce que Dieu me demande, j'ai à cœur de faire aussi. Je discutais avec Prune tout à l'heure, voilà, j'ai à cœur d'aller travailler parmi les filles de la rue. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, je prends le dernier exemple parce qu'il est là. Et non, ce n'est pas le dernier c'est Flore. Voilà, qui me disait, voilà, j'ai à cœur de faire des visites aux personnes âgées. Est-ce que c'est bien? Oui, les deux derniers exemples, c'est la preuve d'une foi vivante. Quelqu'un qui dit, voilà, j'aime Dieu et la foi sans les œuvres, vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Elle est morte. Et c'est vrai. Et Dieu se préoccupe de notre foi. Peut-être que vous vous dites, ah, mais moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de là. Dieu pourrait vous dire, non. Je prie pour toi afin que ta foi ne vacille pas. Mes frères et sœurs, est-ce que votre foi est en train de vaciller parce que vous avez traversé une épreuve? Qui n'a pas traversé d'épreuve? Levez la main. Qui n'a pas traversé d'épreuve? On en traverse. Bien sûr, c'est plus ou moins pénible, mais nous avons besoin d'une véritable foi vivante. Je le répète, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et la parole de Dieu, comme nous le partageons maintenant, doit insuffler une véritable foi. Si vous lisez la parole de Dieu et qu'elle ne vous communique pas cette foi vivante, c'est que vous lisez uniquement avec votre tête. Vous ne lisez pas avec votre cœur. Parce que je suis persuadé que le Saint-Esprit, il a le pouvoir de ranimer notre foi. Dimanche, mardi dernier, dans cette église, je parlais avec un jeune homme qui a été convaincu de péché. Et je me dis, voilà, voilà ce qui se passe dans une église. Quand quelqu'un, il m'a dit, voilà, je suis convaincu de péché, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est pas vieux. Moi, ça me rassure. Parce que dans une église, quand on ne voit plus de conviction de péché, franchement, je pense que c'est grave. Au moins de la part des nouveaux. Mais enfin, est-ce qu'un chrétien peut être convaincu de péché? Eh bien sûr. Mais moi, quand on me dit, il n'y a plus de conviction de péché, les gens ils font ce qu'ils veulent, les gens ils vivent ensemble sans être mariés, et tout le monde, tout ça c'est accepté, pour moi, c'est sûr. Je m'avance un peu, je ne prends pas le temps de l'expliquer, mais c'est que Jésus est à la porte. Parce que dans une église où il y a le Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement que d'être convaincu. Et on est, bon, c'est bien la Sainte-Cène, mais je crois que quand on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Et la foi doit jaillir. La vie est faite de combats, la vie est faite de tribulations, et qu'on serve dans l'église en plus, plus on sert, plus on a des tribulations. Regardez ce texte, on va le lire dans 1 Pierre 5. Dans 1 Pierre 5, verset 8, vous avez remarqué que Jésus prie parce que Satan a voulu cribler Pierre. Il ne s'adresse pas qu'à Pierre d'ailleurs. Il s'adresse à tous, mais à Pierre d'une manière particulière. Et dans 1 Pierre, justement, Pierre il connaissait l'affaire, dans 1 Pierre 5, vous connaissez ce texte, verset 8. Regardez ce qu'il est dit par rapport au combat que l'on traverse. Qu'est-ce qui nous est demandé? Alors il y a plusieurs conseils qu'on devrait lire, mais on n'a pas le temps bien sûr. 1 Pierre chapitre 5, on va lire le verset qui nous intéresse. Verset 8. Soyez sobre. Alors sobre, ce n'est pas que par rapport à l'alcool. Soyez sobre, c'est par rapport à tout. En parole aussi, vous voyez, etc. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lui aussi cherche à voir ceux qui ont une foi qui s'affaiblit. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, on voit bien qu'il y a une solution de résister avec une foi ferme. Et souvent, les gens croyant résister au diable, en vérité, ils résistent à Dieu. Quand dans une église, on commence à accepter que les gens vivent ensemble sans être mariés, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas en train de résister au diable. On est en train de résister à Dieu. Croyez-moi, résistez-lui avec une foi ferme. L'ennemi peut, dans plein de cas de figure, nous cribler. Satan, c'est Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Pierre avait besoin d'une épreuve. Est-ce que vous dites, mais non, moi je traverse cette épreuve, c'est pas normal, c'est injuste, moi je comprends pas, moi je travaille, on m'a jamais dit merci. Il y a des gens qui ont abandonné l'église parce qu'on leur a pas dit merci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, avec tout ce que je fais, c'est normal qu'on me dise merci. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour le piano, merci pour la guitare. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut arriver qu'on oublie de nous dire merci? On le fait pour qui? Pour que les gens nous disent merci? Ou on le fait de tout notre cœur pour Dieu? C'est vrai que nous, dans l'Église, bon, on travaille dans cet esprit de reconnaissance et de gratitude. Et on se dit toujours merci. Est-ce que c'est bien d'être reconnaissant? Moi, je trouve que c'est super de dire merci, même deux fois trop ou trois fois trop. Moi, je trouve que c'est bien la reconnaissance et la politesse. Mais si on oublie de nous dire merci, on va perdre la foi parce qu'on n'a pas dit merci. Vous voyez? Mais est-ce que Dieu ne peut pas le permettre, ça, parfois? Moi, je le crois. Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Merci pour la prière des frères. Merci pour la prière des sœurs. Mais merci pour la prière du Seigneur. C'est écrit qu'il intercède pour nous à la perfection. Vous pouvez dire amen. Vous pouvez dire merci de savoir que si quelqu'un vous oublie, le Seigneur, lui, il ne vous oublie pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et Pierre avait un problème. Il avait un problème. La preuve, c'est que ça se révèle de suite après. Mais moi, je suis prêt à aller, les autres, d'accord. Mais moi, je suis prêt à aller à la mort et en prison. Et dès que, et voyez, pourtant, dans le jardin de Gethsémané, il a pris une épée, il a failli tuer quelqu'un. Il aurait pu tuer quelqu'un. Heureusement qu'il n'y a coupé que l'oreille. Mais enfin, voyez, on pourrait dire, il n'est pas prêt de renier le Seigneur, lui. Et quelques heures après, une femme qui va lui dire, mais tu n'es pas d'eux, tu n'es pas de leur groupe. Et voyez, devant un homme armé, il n'a pas eu peur. Et devant les paroles d'une femme, et puis il a craqué. Comme quoi, voyez, on ne sait pas toujours ce qui peut nous faire chuter. Voyez, c'est pour ça qu'il faut être sérieux. Et dire, moi, ça ne me fait pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Mais voyez, je crois qu'on ne se connaît pas vraiment. Et que quand le Seigneur nous dit, je prie pour que ta foi ne défaille pas, ce soir, pensez à remercier le Seigneur de ce qu'il intercède pour que notre foi ne défaille pas. Il sait où nous en sommes. Lui, il le sait. Nous ne savons pas. Bien sûr que vous pouvez dire, mais si, quand même, je sais où j'en suis. Moi, j'ai chanté merci pour ta parole, mais vraiment, je le pense. Pour moi, la parole de Dieu, c'est elle qui me juge. C'est pas moi qui juge la parole. C'est beau quand on entend ça. Mais mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui sait exactement où nous en sommes. C'est pour ça que nous avons raison d'écouter la parole de Dieu, de venir dans un moment comme celui-ci et surtout de ne pas donner accès au diable. Parce que vous savez, il y a des choses qui donnent accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein, quand il est dit, ne vous irritez pas. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver de s'irriter? Bien sûr. Mais l'irritation peut se transformer en colère, et cette colère, si on ne la dépose pas au pied du Seigneur, dans la nuit, vous savez, ça même si on dort, ça continue à travailler. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Et nous avons vu des chrétiens qui étaient fervents, qui étaient bouillants, et puis qui tout d'un coup sont devenus aigres, fermés, ils ont donné accès au diable. Pourquoi? Eh bien parce que quand Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, moi je trouve que c'est bien le soir de dire, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Tu vois, cette parole m'a contrarié, mais je la dépose à tes pieds. Que ton nom soit béni. C'est comme ça qu'on ne se couche pas sur la colère. Vous avez jamais vu des chrétiens remplis d'amertume? Je suppose que ça a dû vous attrister, comme c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont donné accès au diable. Et ça va vite, croyez-moi. Paul parle du bon combat de la foi. À la fin de sa vie, il dira, j'ai gardé la foi. Il ne dit pas, j'ai gardé ma croyance, je vais toujours à l'église, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on va toujours à l'église qu'on a gardé une véritable foi. Je parle de cette foi vivante. C'est bon à la fin de sa vie, Paul, le vieillard Paul qui dit, j'ai gardé la foi. C'est beau ça quand les gens arrivent à la fin de leur vie et qu'ils disent, moi j'ai toujours une foi vivante. Moi, je me souviens quand je me suis converti, ça faisait quelques jours, quelques semaines que j'étais converti, et de suite, avec Isabelle, on a été visiter des personnes âgées. Parce qu'on avait demandé au pasteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église? Alors le samedi, eh bien, moi je travaillais en boîte de nuit, mais je veux dire, le samedi, jusqu'à ce que j'arrête, eh bien, avec Isabelle, quand on se retrouvait, parce qu'elle était à Bordeaux, eh bien, on allait visiter des personnes âgées. Et je remarquais de suite, quelques semaines après ma conversion, qu'il y a des gens qui, à la fin de leur vie, eh bien, ont gardé une foi vivante, sont dans l'espérance, dans la grâce. Il y a des personnes âgées, chrétiennes, hein, qui sont dans une amertume, tout le temps ressassées. Et pourtant, c'est des chrétiens qui avaient tous, à l'époque, 40 ou 50 ans de conversion. Certains étaient dans une foi vivante et certains étaient dans une religiosité morne et triste parce que, eh bien, ils avaient... Il s'était fait piéger par les épreuves. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez me dire, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va mourir, on n'en sait rien. Mais enfin, c'est beau quand même de pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai servi Dieu. Est-ce que vous allez être de ces chrétiens? Oui, moi, quand je fais quelque chose, on ne me dit pas merci. Alors, mais c'est fini. Est-ce que vous serez comme ça? Est-ce que vous savez qu'il y en a? Je le répète. Oui, il y en a. Est-ce que vous direz, j'ai gardé la foi? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat de la foi. Et il termine en disant, certains ont fait naufrage par rapport à la foi, ils ont perdu la conscience. Combat, le bon combat de la foi. Il y a trois mots. Combat, qu'est-ce qu'un combat? Paul fait allusion toujours à ce qui est militaire. Mais il y a un combat. Je ne sais pas si vous le réalisez, il y a un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et la puissance des ténèbres. Vous le réalisez qu'il y a un combat? Si Dieu nous ouvrait les yeux pendant une minute sur l'invisible, je crois qu'on en aurait des frissons pendant deux mois. Si Dieu nous ouvrait les yeux sur ce qui se passe dans l'invisible, si Dieu a créé l'invisible, ouf, c'est très bien. Des fois on dit, oh, Seigneur, montre-moi un ange. Bon, écoutez-moi, je comprends la prière, mais il vaut mieux pas que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans l'invisible. Parce que je ne suis pas sûr que tous les chrétiens le supporteraient. Combat, il y a un combat, mais il faut que ça soit un bon combat. Combat, le bon combat. Je me souviens quand j'étais en Polynésie que je traversais des moments très difficiles. Un jour j'étais à genoux en train de prier et je disais, Seigneur, tu dis que c'est un bon combat, mais moi je ne trouve pas que c'est un bon combat. Mais vraiment, j'étais triste, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et vous savez, quand le bon combat, je dis, mais le bon combat, mais n'importe quoi. Moi j'étais là, énervé, fatigué, le bon combat. Et le Saint-Esprit m'a rappelé le verset, oui, c'est un bon combat quand c'est le combat de la foi. Et là, c'est un mauvais combat parce que tu ne combats pas par la foi. Et ça ne tient pas à grand-chose. On peut combattre par ses propres forces. Oh, ça peut être le combat de l'incrédulité. Quand je commence à ne pas croire, à douter, c'est pas le bon combat de la foi. Et quand Dieu dit, si Dieu a dit combat, le bon combat de la foi, ça veut dire le bon combat de la confiance, c'est que moi je peux vous dire qu'il y a un bon combat. Parce que c'est lui qui combat pour vous. Est-ce que vous le croyez ça? Et c'est ça qu'on doit véritablement expérimenter. Tous les combats ne sont pas bons. Les combats, les vains combats, les combats inutiles, les combats dans lesquels on se précipite, ou alors on réagit bêtement parce que oui, puisque c'est comme ça, eh bien je ne fais plus rien. Mais ça, ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat où, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu combats pour moi. Est-ce que vous combattez ce bon combat? Est-ce que, Seigneur, moi je ne m'en occupe pas. Toi, tu t'en occupes, je veux que tu combattes à ma place. Là, ça devient un bon combat. Et certains n'ont pas compris. Ils ne se sont pas peut-être suffisamment laissés aider par les autres. Moi, je crois que c'est bien de demander aux autres de prier pour moi. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il a été soulagé parce qu'il a demandé à des chrétiens de prier pour lui. Ce n'est pas vieux, c'était hier. Et n'hésitez pas, mes frères et sœurs, à le faire. La foi, cette foi, parce que quand Paul, on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit les Hébreux, mais quand il a dit là. La foi, c'est... On va la lire, cette définition. Beaucoup en parlent de cette définition. Et il y a plusieurs choses là-dedans. Hébreux 11, verset 1er. Qu'est-ce que la foi? Alors, les gens, souvent, ils répondent Hébreux 11, verset 1er. Et c'est vrai que... Voilà, mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, elle est pleine d'espérance. Mais en même temps, il est dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que la foi? D'un côté, il faut espérer, mais il ne faut pas qu'espérer. Il faut en même temps cette démonstration. Est-ce que nous voulons que la puissance de Dieu soit démontrée, vous soit démontrée? Vous voyez, le bon combat de la foi, c'est ce combat qui consiste à rester dans la vision divine. Quelle est la vision que j'ai pour mes enfants, pour l'avenir, pour les jeunes? Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Si vous deviez parler d'une vision, je ne parle pas de quelque chose que vous avez vu, mais de quelque chose que vous désireriez. Qu'est-ce que vous désirez? Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Les jeunes, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Non, c'est bien. Vous avez peur? Eh oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Et si vous avez peur, si vous êtes inquiet, eh bien demandez au Seigneur qu'il vous ouvre les yeux. Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Afin que quand vous lirez la parole de Dieu, eh bien vous voyez véritablement les promesses, les prophéties. Je discutais tout à l'heure avec Flore, mais vous ne trouvez pas que c'est merveilleux que la Bible soit un livre prophétique? Sincèrement, il pourrait ne pas y avoir les prophéties dans la Bible. Parce que nous, on est habitués. Mais la Bible est un livre prophétique. On sait ce qui va arriver. Est-ce que c'est bien? Mais un peu. Et il me semble que comme les chrétiens de la Odyssée se sont entendus dire « Je te conseille d'acheter du collier pour oindre tes yeux », on peut dire au Seigneur « Seigneur, ouvre mes yeux, afin que ma vision soit renouvelée, que je n'ai pas peur du lendemain, que par tes promesses, tu me parles, par tes commandements, tu me parles, que je vois l'Église comme tu veux que je la voie. » Comment la voyons-nous, l'Église? Est-ce qu'elle est belle pour vous, l'Église du Seigneur? Oui, elle est belle. L'Église, elle est belle. C'est l'Église que le Seigneur a rachetée par son sang précieux. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de chacun de nous. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et si nous voulons que la parole agisse, il faut considérer l'Église comme il la considère. Il ne faut pas que notre foi soit obstruée par manque de vision. Vous le connaissez, faute de vision, le peuple périt. Dans le jardin de Gethsémané, je donne quelques exemples, mais dans le jardin de Gethsémané, les yeux des disciples étaient appesantis par le sommeil, par la tristesse. Ils étaient endormis de tristesse. Moi, la première fois que j'ai médité ce texte, je me suis dit, comment ça, la tristesse peut nous endormir? C'est écrit. Est-ce que Jésus n'était pas triste lui aussi? Il était, comment il est dit, triste à la mort. Est-ce que ça l'a empêché de faire l'œuvre de Dieu? Non. Les apôtres étaient tristes, endormis de tristesse. Ils n'ont pas pu soutenir le Seigneur qui avait besoin, plus que jamais à ce moment-là, puisqu'il a demandé prier. Vous vous rappelez ? Ils ne l'ont pas fait. Et je pense que le Seigneur Jésus a souffert beaucoup plus qu'il n'aurait dû souffrir à ce moment-là, parce qu'il n'a pas été soutenu par les apôtres à qui il avait prié pour moi. Il leur avait demandé. Et c'est pour ça que nous devons dire, mais quand même, est-ce que je prie suffisamment pour mes frères ? Est-ce que je prie suffisamment pour mes sœurs ? Est-ce que je prie suffisamment pour mon pasteur ? Etc., etc. Est-ce que ma vie prie ? Car Pierre avait besoin de faire une expérience et de sortir de sa vision complètement fausse dans laquelle il se trouvait. Garder la foi, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Vous voyez la tristesse ? Ça vous est arrivé d'être triste ? Oui, il y a des gens, moi j'ai connu des chrétiens, dès qu'ils ont été tristes, parce qu'ils étaient contrariés, ça a été terminé. Ils se sont définitivement endormis. Et je pense qu'ils auraient dû entendre la parole de Dieu qui dit, tu vas être criblé, mais quand tu seras revenu, affermis les frères. Et à quoi reconnaît-on quelqu'un qui a été affermi ? Eh bien, c'est qu'il va faire du bien aux autres. Est-ce que vous avez envie de faire du bien aux autres ? Allez, répondez, Madame Pauvert en face de moi. Vous avez envie de faire du bien ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que vous faites du bien aux autres ou est-ce que vous les fatiguez ? Parce qu'il y a des gens que vous avez peut-être évités parce qu'ils sont fatigants. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont pas reçu. Et je crois qu'il faut continuellement recevoir et non pas se gargariser de ce que l'on a été. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, moi je suis moniteur depuis 25 ans. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que les enfants dont tu t'occupes sont toujours bénis par ton ministère ? C'est bien d'enseigner depuis 25 ans, mais c'est peut-être mieux de continuer à faire du bien aux autres. Et on a vu, ça, moi, vous savez, j'enseigne, moi, je prêche depuis tant d'années. Oui, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu fais toujours du bien ? Et quand on voit le 11, j'ai pas le temps de terminer, mais mes frères et sœurs, on voit qu'il y avait un gros problème de communication et de communion avec Dieu. Il faut arriver à ce stade où la communion soit véritablement un bienfait, une bénédiction. Je termine avec ce témoignage. Je ne sais pas si vous vous rappelez un jour, la veuve de Sarepta, elle a vu le prophète Élie arriver. Et quand elle l'a vu, à la place de se réjouir, elle a dit ceci. « Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Vous rendez compte ? Elle voit l'homme de Dieu arriver, donc il voulait la bénir. Et qu'est-ce qu'il s'entend dire ? Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ? Ça prouve que cette femme, elle vivait dans la culpabilité. Vous voyez ? Quand vous voyez un homme de Dieu arriver, elle aurait dû se réjouir. Elle dit, tiens, es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ? Comme quoi, vous voyez, il y avait des problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut ne pas régler. Alors c'est vrai qu'il y a la culpabilité. Il y a la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. Mais moi, je vous assure, si c'est de la fausse culpabilité, il faut s'en défaire. Si c'est une vraie culpabilité, eh bien, il faut le régler. Si j'ai vraiment dans mon cœur quelque chose qui ne va pas, je dois le régler. Parce que là aussi, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur se délivrer, être délivré de la culpabilité. Mais je crois qu'il faut commencer par le début. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Si c'est faux, eh bien, je m'en débarrasse. Cette femme, il y a longtemps qu'elle avait été pardonnée, mais elle ne se pardonnait pas quelque chose. Donc quand elle voyait l'homme de Dieu, voilà, elle pensait que lui voulait lui rappeler un mauvais souvenir. Vous en avez des mauvais souvenirs ? Oui. Hein. Mes frères et sœurs, une vie de foi, c'est quelque chose de sérieux. Le Seigneur, il veut ranimer notre foi à chacun. Et il ne faut pas que nos sentiments, comme à cette pauvre veuve, nous fassent défaut. Il faut que nous vivions avec une foi simple. Et que nous sachions vraiment bien répondre au Seigneur quand il nous pose des questions. Pierre aurait dû rien dire ce jour-là. Bon, il avait besoin d'apprendre, comme nous. Mais des fois, on répond mal. Jonas, cet après-midi, je lisais le livre de Jonas. Et à un moment donné, Dieu lui dit, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Et qu'est-ce qu'il répond ? Oui. C'était un pasteur quand même. Dieu lui dit, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter contre ce ricin ?» Tout ça, parce que lui, il était en colère. Et il dit oui. Je dis, mais le pauvre, heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités. Parce que Dieu a quand même pu l'utiliser. Mais quand même, mes frères et sœurs, c'est quand même dommage quand Dieu nous pose certaines questions, que nous soyons capables de répondre comme ça. Et quand on s'irrite, on fait toujours mal. Il aurait dû dire, écoute, aide-moi. Et il est resté enfermé, il s'est isolé, et pourtant c'était un homme que Dieu a vraiment utilisé. C'est une question, je ne dis pas ça pour critiquer Jonas, mais je dis ça pour que nous posions vraiment la question, comment fonctionne ma foi? Est-ce qu'elle fonctionne avec une bonne conscience? Parce que cette foi, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage parce que leur conscience n'en est pas bien. Et je crois que Jonas, quand même, au niveau de la conscience, il y avait un problème. Tout pasteur qu'il était, il y avait un problème de conscience. Parce que quand Dieu pose certaines questions, ce n'est pas parce qu'on a un titre ou ce n'est pas parce qu'on a fait des progrès qu'il faut s'autoriser à manquer de respect envers le Seigneur. Et combien on fait naufrage? Combien on fait naufrage par rapport à la foi? Parce qu'il n'avait plus de vision. Alors mes frères et sœurs, cette exhortation, c'est pour nous aider à laisser Dieu nous parler. Moi, je crois que lorsqu'on est sérieux, on peut prendre la parole et Dieu va nous conduire, s'il le faut, au désert. Mais Dieu va nous parler. Et si le Seigneur nous dit, voilà, je t'ai criblé, j'ai permis que Satan te crible, eh bien, accepte-le. Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces, vous le savez. Le Seigneur connaît les épreuves que nous devons traverser. Bien sûr que vous, est-ce que vous aimeriez ne plus avoir d'épreuves? Hein? Vous aimeriez ne plus avoir d'épreuves? Bon, mais là, j'ai peur de vous décevoir. J'ai vraiment peur de vous décevoir. Mais on en aura jusqu'à la fin. Dans le ciel, il n'y en aura plus. Pour l'éternité, il n'y en aura plus. Mais mes frères et sœurs, on a besoin d'être éprouvés. Parce que Dieu sait comment affermir notre foi, soutenir notre foi, faire en sorte qu'on ait une foi vivante, faire en sorte que toutes ces épreuves eh bien, nous amènent à rebondir, comme Joseph. Joseph, dimanche soir, je préparais une prédication sur Joseph, les 7 fois où il a pleuré. Et je regardais les 7 contextes, et mais quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce que vous ne croyez pas que cet homme, il a bien fini? Et pourtant, que d'épreuves il n'a pas traversé. Est-ce que ça valait le coup qu'il traverse les épreuves? Oui, ben oui. Pourquoi? Ben parce que Dieu savait ce qu'il faisait. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, croyez-moi mes frères et sœurs, ça vaut la peine de l'écouter, de le laisser nous parler et de nous amener à accepter toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. Car croyez-moi, les épreuves qu'on traverse, même si le diable mettait son grain de sel, c'est Dieu quand même qui contrôle tout et qui permet tout. Alors frères et sœurs, ayons une foi vivante. Ayons une foi vivante que dans l'assemblée nous puissions dire, voilà, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais pas bouder parce qu'on m'a pas dit merci. Tant pis, tant mieux si on m'a pas dit merci. Parce que c'est pour toi que je le fais, Seigneur. Fermons les yeux quelques instants. Et demandons vraiment au Seigneur de garder cette foi vivante. Notre Père, oui, tu as parlé à Pierre pour que sa foi ne défaille pas, mais pour que sa foi soit une bénédiction pour les frères. Et tu as une parole pour chacun de nous, Seigneur. Tu as une parole pour nous amener à une foi vivante. Tu as une parole pour redonner vie à ce qui est mort. Tu es le Dieu qui change le deuil en allégresse. Oui, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et même si tu conduis des hommes et des femmes dans le désert, c'est pour parler à leur cœur. Seigneur, il n'y a que toi qui sais où nous en sommes. Et tu vois, Seigneur, l'état de cœur de chacun. Et même si nous ne nous connaissons pas, toi, tu nous connais. Et Seigneur, vraiment, nous te prions pour que dans l'Église, la foi de chacun soit vivante. Merci pour tous ces jeunes qui sont venus avec ce désir d'exprimer un don, de faire valoir un don, de retrouver cette ferveur. Bénis tous ces jeunes, Seigneur, mais que dans l'Assemblée, chacun puisse comprendre que c'est toi qui règnes, c'est toi notre Père. Et tu vois tous ceux qui sont en train de s'endormir de tristesse, tous ceux qui sont en train de se relâcher, de s'irriter comme Jonas. Seigneur, donne-nous cette grâce d'avoir un collier sur nos yeux, afin de comprendre vraiment que ta parole nous a été donnée pour avoir une foi vivante. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Garde-nous les yeux fixés sur toi, afin que nous ayons tous une victoire à prendre en ces jours pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.